travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Oui, je continuerai de m'adresser uniquement au monde du travail, comme Arlette Laguiller l'a toujours fait. Nous voulons faire entendre dans cette élection les intérêts des travailleurs, les intérêts des exploités, et pas ceux de la famille Peugeot, pas ceux de la famille Bettencourt, que ce soit ceux de la mère ou de la fille, ni d'aucun autre rejeton de la bourgeoisie. Ceux qui s'adressent aux citoyens en général ou aux Français mélangent les riches et les pauvres, les travailleurs et les rentiers, les exploités et les exploiteurs. Ils veulent nous faire croire que nous sommes dans le même bateau. Mais dans ce bateau, il y a ceux qui se prélassent sur le pont et les soutiers qui rament. C'est le règne de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, nous dit-on. Mais dans une société où presque tout s'achète, pour être réellement libre, il faut être riche. Et quelle est l'égalité ? Quand les hommes passent leur vie à travailler pour quelques sous et que d'autres, sans rien faire de leurs 10 doigts, empochent le fruit de l'exploitation. Et quelle est la place de la fraternité dans ce système capitaliste où seul compte la rentabilité et le profit? L'économie capitaliste n'est pas seulement injuste et inégalitaire, c'est aussi une économie absurde où certains se tuent au travail pendant que d'autres sont condamnés au chômage et à la misère, où l'activité économique est laissée au hasard du marché, de la concurrence et de la voie du profit, où les crises naissent de ce qu'il y a trop d'argent à un pôle de la société et trop d'argent consacré à la spéculation. Alors non, la société capitaliste ne peut pas être l'avenir de l'humanité et nous militons, nous, dans la perspective de renverser cet ordre capitaliste, de réorganiser l'économie sur de toute autre base, sans la propriété privée des entreprises, sans la concurrence aveugle, sans la loi du profit, pour la réorganiser sur des bases communistes. Dans cette élection, je serai la seule candidate communiste. Je serai la seule à dire qu'il faudra aller jusqu'au remplacement du capitalisme par une autre organisation sociale. Et si dans cette campagne, nous nous adressons avant tout aux travailleurs, et si nous voulons représenter leurs intérêts matériels et politiques, ce n'est pas seulement parce que nous sommes du côté des opprimés et des plus pauvres. C'est aussi parce que la classe ouvrière a non seulement intérêt à cette transformation, mais c'est aussi parce que c'est la seule classe sociale qui a la force pour y parvenir. La classe ouvrière, seule, est capable d'enlever aux banques et aux groupes capitalistes le pouvoir qu'ils ont sur l'économie et qu'ils conduisent à la ruine. Elle seule est capable de faire naître une société sans exploitation ni domination de classe, où la production sera organisée démocratiquement pour satisfaire les besoins de tous. Oui, nous plaçons notre confiance et notre foi dans l'avenir dans cette classe sociale des travailleurs, dont Karl Marx, le premier, avait dit qu'elle n'avait à perdre que ses chaînes et un monde à gagner. Comme Arlette Laguiller, je suis le chemin tracé par des générations de femmes et d'hommes qui ont consacré leur vie à l'émancipation sociale. La tradition communiste est presque aussi ancienne que le mouvement ouvrier lui-même. Elle a derrière elle les espoirs, les combats, les succès et les défaites de générations successives d'exploités qui refusaient le talon de fer du grand capital. Le courant communiste a connu des hauts et des bas. Il a été incarné par les premiers socialistes, puis par les communistes. les militants de ces partis ne se contentaient pas de voter pour leurs candidats aux élections. Ils avaient un idéal. Ils aspiraient à la révolution sociale. Ils représentaient alors une fraction de la classe ouvrière qui était fière d'être à l'avant-garde des combats qui faisaient progresser toute la société. Cette perspective d'une société égalitaire animée des dizaines de milliers de militants, et même lorsque des dirigeants de leur parti s'éloignaient de ces idéaux avant de les trahir. Alors aujourd'hui, le courant communiste est au creux de la vague. Mais la crise actuelle bouleverse la vie de nombreux travailleurs. L'injustice des licenciements et des fermetures d'usines, la rapacité du grand patronat écœure et révolte. La crise ébranle les consciences. Eh bien, à tout cela, il faut montrer que l'aspiration à changer la société de fond en comble est belle et bien vivante. La crise que nous vivons est souvent comparée à la crise mondiale de 1929. Mais il a fallu attendre 1934 aux États-Unis, 1936 en France et en Espagne pour que les travailleurs trouvent le chemin des luttes et de la grève générale. Il a fallu des années pour que les travailleurs passent de la résignation, du désespoir impuissant, voire réactionnaire, à l'espoir d'inverser le cours des choses. Aujourd'hui, la matière explosive s'accumule dans la classe ouvrière. Le moment de la révolte de millions de femmes et d'hommes viendra tôt ou tard. Eh bien, c'est à nous de maintenir l'espoir révolutionnaire et de le faire entendre dans cette élection présidentielle. Les journalistes me demandent souvent, sur un air de reproche, mais ils le faisaient aussi avec Arlette Laguiller, « Mais puisque vous pensez que l'on ne peut pas changer les choses par les élections et qu'il faut une révolution, alors pourquoi vous présentez-vous à cette élection ?»« Et pourquoi pas ?» Les élections servent d'abord et avant tout à s'exprimer. Et pourquoi faudrait-il que nous taisions ? Des générations de travailleurs se sont battus pour avoir le droit de s'exprimer et de voter. Et bien des peuples se battent aujourd'hui pour conquérir ce droit en Égypte, en Syrie, au Sénégal. Alors nous, ce droit, nous l'avons. Et bien nous devons nous en servir, y compris pour dire que les élections ne changeront rien à la vie des travailleurs et que ce qui peut changer, c'est que les exploités inversent le rapport de force. La lutte de classe n'est pas une invention des communistes révolutionnaires. La lutte de classe est menée au quotidien par le grand patronat et elle est vécue par des millions de travailleurs dans leur chair. Ce sont les cadences qui augmentent, les pressions pour en faire toujours plus, les minutes de pause volées, les heures supplémentaires qui sont oubliées sur les fiches de paye. Ce sont les horaires de travail toujours plus dingues. Ce sont les intérimaires et les stagiaires qui sont renvoyés du jour au lendemain et leur boulot qui retombe sur ce qui reste. Derrière chaque fermeture d'entreprise, derrière chaque licenciement, Fabien l'a dit, il y a la rapacité patronale. Il y a d'abord et avant tout la volonté de garantir les profits et d'assurer aux actionnaires leurs dividendes avec les emplois et les salaires des travailleurs. Derrière la décision du groupe Peugeot-Citroën de supprimer 6 000 emplois et de fermer deux de ses usines en France, dont celle d'Aulnay-sous-Bois, il y a l'appétit illimité de grands actionnaires. Pendant que le chômage et la misère explosaient sur ces 3 années de crise, avec 1 million de chômeurs supplémentaires, Les dividendes des actionnaires ont été préservés. Ils ont été garantis. Et mieux même pour les actionnaires du CAC 40, puisqu'ils ont augmenté de 31%. Et pendant que nos salaires, à nous tous, dégringolaient et que notre pouvoir d'achat diminuait, eh bien la rémunération des grands patrons, elle, a augmenté de 34%. Alors c'est la crise, nous dit-on. Personne ne peut le nier. Mais ce n'est pas la crise qui fait que le grand patronat s'en sort indemne et que ce sont les travailleurs qui payent. Non, ça, c'est le résultat de la lutte de classe. Alors oui, le patronat mène la lutte de classe. Eh bien, il faut que les travailleurs ne se laissent pas faire et qu'ils rendent coup pour coup. Le patronat est à l'offensive et il a, en la personne de Sarkozy, trouvé le porte-parole idéal et le serviteur zélé. Sarkozy a commencé son mandat il y a près de 5 ans, au Fouquet's, en affichant son amitié pour les plus riches. Et pendant tout son quinquennat, il a été leur représentant cynique. Et il veut l'être jusqu'au bout, en mettant en place la TVA prétendument sociale et les accords de compétitivité. La TVA dite sociale est l'ultime cadeau que Sarkozy promet au patronat. Le cadeau d'une nouvelle exonération de cotisations patronales, un cadeau de 13 milliards, qui sera, une fois de plus, payé par les travailleurs avec l'augmentation de la TVA. Pour les milieux patronaux et pour la grande majorité des dirigeants politiques, les cotisations patronales, comme les salaires, sont des charges. Comme si ce n'était pas les travailleurs qui faisaient rentrer l'argent dans les entreprises. Alors non, ces cotisations ne sont pas des charges. C'est une partie du salaire. C'est la partie du salaire qui doit revenir au travailleur quand il est malade, quand il est au chômage ou à la retraite. Et baisser les cotisations, eh bien c'est baisser les salaires. Et c'est faire payer la différence de notre poche. Quant à la répercussion que cela pourrait avoir sur l'emploi, c'est du baratin. Cela fait plus de 30 ans que les exonérations de cotisations se multiplient au point qu'elles atteignent aujourd'hui les 30 milliards par an et il n'y a jamais eu autant de chômeurs. Une mesure peut-être encore plus anti-ouvrière est celle concernant les accords de compétitivité. Sarkozy veut donner la possibilité aux patrons de baisser le temps de travail et surtout les salaires, selon les aléas de l'économie. Que les patrons, confrontés à une chute de l'activité, baissent le temps de travail de chacun pour garder tous les emplois, ce ne sont pas les travailleurs qui s'en plaindront. Mais les salaires de tous doivent être garantis. C'est le patronat qui doit assumer les hauts et les bas de sa propre économie. On ne peut pas accepter de perdre 200, 300 euros sur sa fiche de paye alors que les salaires sont déjà insuffisants. Si les patrons veulent réduire le coût de leurs produits, eh bien qu'ils diminuent la part consacrée aux actionnaires sous forme de dividendes, mais pas les salaires. Sans doute inquiet de se voir si bas dans les sondages, Sarkozy a choisi de précipiter son entrée en campagne. Et il a sorti la grosse artillerie contre les chômeurs pour plaire à l'électorat le plus réactionnaire de droite et de l'extrême droite. Eh bien, c'est insupportable. Mais ce sera cela, la campagne de Sarkozy, pendant les 3 mois à venir. Des insultes contre les chômeurs, des attaques contre les travailleurs parce qu'ils sont immigrés, du mépris social contre tous ceux qui ne sont pas du bon côté du manche. Depuis le début de la crise, 900 usines ont fermé. Il y a une usine qui ferme chaque jour. Et 1000 chômeurs de plus, tous les jours. Non seulement Sarkozy laisse faire les licencieurs, il laisse faire ses amis capitalistes, Mais en plus, il accuse les travailleurs qui sont mis au chômage d'être des assistés. Il les accuse de ne pas vouloir travailler. Mais nous avons tous vu les travailleurs de Continental, de New Fabrice, de Molex, de Cifrance, de Le Jabi se battre bec et ongle pour ne pas perdre leur emploi. Et aujourd'hui, les travailleurs de Fralib, de Merck, de Petroplus et combien d'autres encore se battent pour ne pas être mis dehors. Et ce sont eux que l'on accuse de ne pas vouloir travailler. Ce sont eux qui sont accusés d'être des fainéants. Sarkozy veut lier, dit-il, les allocations chômage à une formation. Comme si les chômeurs refusaient des formations. Comme si, à l'issue de ces formations, il y avait un emploi. Parmi les ouvrières de Moulinex, de Cormel-le-Royal, licenciées il y a tout juste 10 ans, la grande majorité doit maintenant vivre avec les minima sociaux. Et ce n'est pas faute d'avoir enchaîné les formations. Alors derrière cette histoire de formation, il y a surtout l'obligation qui sera faite aux chômeurs d'accepter le premier emploi proposé, c'est-à-dire de contraindre, de forcer les travailleurs à accepter tous les petits boulots, et même ceux qui ne permettent pas de vivre. Avec une telle politique, on verra peut-être ici des jobs à 1 euro de l'heure, comme en Allemagne, des emplois pour moins de 400 euros à temps partiel. C'est mieux que rien, disent les dirigeants politiques de droite. Mais combien leur faut-il, eux, pour vivre ? Eh bien, il faut qu'ils sachent que les travailleurs ont eux aussi un estomac à remplir et qu'ils ne veulent pas manger n'importe quoi. Il faut qu'ils sachent que les travailleurs ont eux aussi besoin d'un toit sur leur tête, qu'ils ont besoin de quoi se chauffer, de quoi se soigner et qu'ils ont eux aussi besoin de se reposer et même d'avoir des loisirs. En s'en prenant aux chômeurs, Sarkozy s'en prend en fait à tous les travailleurs. Parce que le chômage, c'est une menace qui pèse sur l'ensemble des travailleurs. Qui, aujourd'hui, peut se sentir à l'abri du chômage ? Même les fonctionnaires ne peuvent plus, puisque l'État peut licencier tout fonctionnaire qui refuse 3 reclassements. Alors le chômage, c'est un fléau pour nous tous. C'est un fléau social, c'est le produit de la rapacité patronale, le produit de l'exploitation. Pour les patrons, les travailleurs, qu'ils soient ouvriers, cadres ou même ingénieurs, ne sont que des facteurs de production, comme les machines ou les pièces de rechange qu'ils peuvent mettre au rebut quand ils n'en ont plus besoin. Et un ouvrier, un employé qui se retrouve au chômage, et surtout, s'il y reste longtemps, comme c'est de plus en plus le cas, a le sentiment d'être seul face à son malheur. Eh bien, nous avons à dire et à répéter que ce n'est pas un malheur individuel et que le chômage n'est pas de la responsabilité du chômeur lui-même. Le chômage doit devenir l'objet de notre combat commun, qu'on soit en activité, à la retraite ou au chômage. Le chômage est un problème. C'est notre problème à tous et c'est collectivement, au travers de nos luttes, que nous pourrons le combattre. Le gouvernement Sarkozy-Fillon fait aussi depuis longtemps un chantage permanent, en prétendant qu'il est du devoir de chaque citoyen de contribuer au remboursement de la dette de l'État. Que si nous ne faisons pas l'effort aujourd'hui, il reviendra à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, de le faire à notre place. Mais pendant ces 3 années et demie de crise, le gouvernement a contracté 500 milliards de dettes supplémentaires. Mais où est passé cet argent ? Ces 500 milliards, ils ont bien servi à quelque chose, ils ont bien atterri quelque part. Qui est-ce qui en a profité ? On n'a rien vu dans les hôpitaux, rien sur les retraites, rien sur l'éducation, rien sur les salaires. Aucun travailleur n'a vu la couleur de cet argent. Si la dette a explosé pendant ces 3 années de crise, c'est parce que l'État a fait de l'assistanat à grande échelle pour les banquiers et pour les industriels. Les plus fortunés ont été protégés par le bouclier fiscal et les dividendes des actionnaires ont été garantis par des subventions diverses et variées de l'État. Et c'est en permanence que l'État sert de vache à lait aux industriels. Il y a aujourd'hui unanimité de la classe politique française, de Le Pen jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, pour se réjouir du contrat de vente de 126 Rafales à l'Inde. Comme si ce qui est bon pour Dassault était bon pour les travailleurs français. Quant aux intérêts des 230 millions d'Indiens qui ont faim tous les jours, il n'en est évidemment pas question. Alors non, le Rafale, c'est d'abord et avant tout un puits sans fond. Rien que le programme du Rafale aura coûté 40 milliards aux contribuables. Mais avec ces 40 milliards d'argent public, on peut en construire des choses utiles. On peut en faire et on peut en construire des milliers de logements. On peut en créer des emplois. Et que l'on ne nous fasse pas croire que l'intérêt des travailleurs de Dassault correspond aux intérêts du milliardaire. Car les travailleurs de Dassault ont les compétences pour fabriquer bien d'autres choses que des engins de mort. Et j'en profite pour exprimer notre opposition à toutes les aventures guerrières de notre impérialisme, de la Libye à l'Afghanistan, en passant par la Côte d'Ivoire. Et pour exprimer... Et pour exprimer notre opposition au maintien de toutes les bases militaires à l'étranger, notamment dans les anciennes colonies de la France en Afrique, à bas l'impérialisme français. Alors, autant le gouvernement rechigne aux dépenses utiles à toute la population, autant il dépense sans compter quand l'argent public atterrit dans les poches de Dassault, Lagardère, Bouygues et compagnie. Alors voilà où sont passés les milliards que le gouvernement Sarkozy-Fillon veut faire payer aujourd'hui à toute la population. Alors quand bien même on nous ressort cette dette de l'État à toutes les sauces, non. Les travailleurs n'en sont pas redevables, cette dette c'est la dette de la bourgeoisie, et bien c'est à elle de la payer. Les travailleurs ont bien des raisons de rejeter Sarkozy et de vouloir s'en débarrasser. Mais ils n'ont aucune raison de faire confiance en François Hollande pour défendre leurs intérêts. On voit et on entend Hollande tous les jours. Mais Hollande ne s'engage à rien vis-à-vis des travailleurs. Il n'a rien à opposer aux fermetures d'usines. Rien à opposer au licenciement, rien à dire aux travailleurs menacés d'être mis sur le carreau, n'en parle même pas. Hollande ne s'est pas engagé à faire quoi que ce soit contre la dégringolade du niveau de vie des couches populaires. Que ce soit sur les retraites, sur la promesse des contrats de génération ou sur la création des emplois dans l'éducation, Hollande s'en tient au strict minimum, tout en expliquant que ces maigres mesures sont, en plus, conditionnées à la croissance. C'est vrai, Hollande promet de taxer un peu plus les riches, avec notamment une nouvelle tranche d'impôt à 45%, l'impôt sur le revenu. Mais sous le gouvernement Raffarin, c'est-à-dire en 2005, ce taux était de 48% et de 60% sous Giscard. Quant à l'impôt sur les bénéfices, Hollande dit vouloir le monter à 35% pour les grands groupes, mais il était de 50% sous Giscard. Alors faut-il en déduire que Giscard était plus à gauche que Hollande ? intervention qu'il aimait les gens. Mais c'est un amour qui ne se laisse pas emporter par la passion et un amour qui est sans engagement. Et on pourrait même, en fait, parler d'amour vache. Car, vous le savez, Hollande, comme Sarkozy, s'est engagé auprès des banquiers pour que l'on rembourse, nous tous, cette fameuse dette de l'État. Il donne même à l'occasion des leçons de rigueur à Sarkozy. Certes, il enrobe tout cela dans le mot « justice », mais il ne faut pas s'y tromper. À chaque fois que l'on parle de rigueur, c'est toujours les classes populaires, sur les classes populaires que cela retombe. Alors nous sommes prévenus, si Hollande est élu, les sacrifices continueront. Et les coups, au lieu de venir de la droite, eh bien, ils viendront de la gauche. Dans son discours du Bourget, Hollande s'en est pris à la finance. Et cela apparaît-il soulagé les autres dirigeants socialistes qui pouvaient craindre que Sarkozy ne double Hollande sur la gauche en faisant à peu près le même numéro. Parce que Sarkozy l'a déjà fait. En septembre 2008, dans son premier discours de Toulon, Sarkozy avait déclaré qu'il allait moraliser la finance, remettre les marchés financiers à leur place, refonder même le capitalisme. Et de ce discours, il était ressorti une vague dénonciation des paradis fiscaux, la promesse d'encadrer les bonus et les stocks options et la nécessité pour les banques de sécuriser leur capital. Enfin, pas de quoi empêcher la spéculation qui continue bel et bien. Et qu'est-ce que Hollande propose avec 3 ans de décalage? Eh bien, les mêmes mesurettes. À ceci près qu'il fait de la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires la pierre angulaire de la lutte contre la spéculation. Mais la France a connu cette séparation pendant 40 ans et les États-Unis pendant 70 ans. Et cela n'a rien empêché. Et faire croire que l'on pourrait ainsi protéger l'économie réelle de la spéculation est un mensonge grossier. Quant à la taxe Tobin, la taxation des transactions financières que Hollande comme Sarkozy reprennent en cœur, c'est un prélèvement qui est ridiculement bas. Le gouvernement prévoit une taxe de 0,1% et de 0,01%, et ça seulement sur certaines transactions financières. Eh bien, leur lâcheté devant les puissants est écœurante. Tous ces dirigeants ne font pas autant de manières quand il s'agit d'augmenter la TVA, le gaz, le train, la CSG ou les sodas. En achetant notre baguette de pain, on paye 5,5% de TVA, 7% sur notre sandwich. Et sur la majorité de nos achats quotidiens, dans nos transactions, nous, obligatoires, eh bien, nous payons 19,6%. Et on ne demanderait à ces messieurs les spéculateurs de ne payer que 0, quelque chose sur des transactions qui leur rapportent des millions et qui, en plus, nuisent à toute l'économie. Et ils nous disent qu'ils partent en guerre contre les marchés financiers. Eh bien, non. Partir en guerre contre les spéculateurs, c'est avoir l'objectif d'exproprier les banquiers sans indemnité ni rachat, fusionner toutes les banques en un seul établissement de crédit et le faire fonctionner au service de la population et sous son contrôle. D'élection en élection, en faisant croire que l'on peut changer notre sort en changeant tout simplement le futur locataire de l'Élysée. Mais combien de travailleurs ont placé leurs espoirs dans Mitterrand, qui promettait de changer la vie? Et combien parmi eux se sont sentis trahis parce qu'il a fini par se comporter comme n'importe quel patron, en bloquant les salaires, en licenciant à tour de bras dans la sidérurgie et en glorifiant la bourse. Combien se sont raccrochés ensuite à la gauche plurielle de Jospin, en se disant que ce serait moins pire que la droite. Et combien parmi eux ont été déçus et déboussolés parce qu'il a plus privatisé que les gouvernements Juppé et Balladur réunis. Alors, les travailleurs et les plus pauvres ont appris, à leurs dépens, que l'arrivée de la gauche au pouvoir ne changeait rien pour eux, et que l'alternance entre la gauche et la droite n'est qu'une duperie. Certains, et c'est la grande majorité, se disent que cela ne sert plus à rien d'aller voter. Mais ça ne fait pas une politique pour les travailleurs. Et parmi les plus amers et les plus désorientés, il y en a même qui seraient tentés par le Front National. On les a tous essayés sauf elle, disent-ils. Mais ils se trompent, parce qu'avec Sarkozy au pouvoir, on l'a eu, la politique de la droite extrême. Le Pen n'est pas au gouvernement, mais avec Guéant et Sarkozy, une partie de sa politique y est déjà. Croire que l'on peut rejeter tous les hommes politiques en votant pour le Front National, c'est se tromper lourdement. Marine Le Pen veut, comme les autres, aller à la Mangeoire. Elle pense avoir trouvé un créneau porteur, un créneau abject, qui s'appuie sur les préjugés racistes et nationalistes pour se faire une petite place dans le système. Mais elle est comme les autres. L'extrême droite, associée au pouvoir, ce serait la classe ouvrière mise au pas. Parce que les travailleurs, Marine Le Pen les aime comme le patronat les aime, c'est-à-dire avec le doigt sur la couture du pantalon. Elle s'adresse aux travailleurs résignés et désespérés. Mais quand les travailleurs se battent, quand ils font grève, c'est la première à hurler avec les loups. Alors voter Le Pen signifie rejoindre, ne serait-ce que par le bulletin de vote, la cohorte des nostalgiques des guerres coloniales, les calotins en tout genre, les ennemis les plus avérés de la classe ouvrière et ceux qui tirent toute la société en arrière. Et pour les travailleurs conscients, il ne peut pas en être question. Je serai peut-être la seule à le dire, alors je ne m'en priverai pas. Notre avenir à nous, le monde du travail, n'est pas au fond des urnes. Et quel que soit le futur élu, nous devons nous préparer à nous défendre et à nous battre pour imposer nos intérêts vitaux. Les dirigeants politiques et les experts de l'information nous baladent avec de faux débats. Ils discutent doctement du problème de la gouvernance de l'Europe, alors que le problème, c'est la gouvernance des banquiers. Ils discutent de sortir ou pas de l'euro, comme si cela changerait quelque chose sur la fiche de paye. Il nous amuse aussi, de l'extrême droite à la gauche, avec la démondialisation, le protectionnisme et le produire français. Mais c'est une stupidité sans nom. On va produire français avec le pétrole français, avec les machines-outils françaises. Les entreprises elles-mêmes sont détenues par les capitalistes du monde entier. Et aujourd'hui, un salarié sur quatre travaille pour l'exportation. La circulation des marchandises, des technologies, des capitaux et des hommes, c'est la circulation sanguine de l'économie. Et si elle s'arrête, il n'y a plus de vie économique. Ce qui est commun à toutes ces discussions, sur le protectionnisme, sur l'euro, sur la mondialisation, c'est qu'elles se placent toutes du point de vue des affaires de la bourgeoisie. Jamais il n'est question de remettre en cause le pouvoir des possédants sur l'économie, jamais de remettre en cause le capitalisme. De l'extrême droite à la gauche, tous les dirigeants politiques servent la soupe à la bourgeoisie. Alors, les travailleurs n'ont pas à se mêler de toutes ces discussions. Ce sont les affaires de la bourgeoisie, ce ne sont pas les nôtres. Nous avons, nous, travailleurs, à discuter de comment défendre et sauver notre peau. Et il faut être prêt à marcher sur les pieds de la bourgeoisie. Il faut être prêt à transgresser le sacro-saint droit de propriété des bourgeois pour faire respecter le droit à la vie des exploités. Il faut s'attaquer au grand capital. Il faut être prêt à aller jusqu'au bout. c'est-à-dire jusqu'à contester la domination de la bourgeoisie. Seuls les communistes révolutionnaires sont prêts à cela. Et voilà pourquoi je serai la seule dans cette élection à défendre le programme de lutte que je vais vous présenter. Le premier objectif, c'est d'abord et avant tout imposer l'interdiction des licenciements. Dès que les commandes et l'activité diminuent du fait de la crise, dès même que le patronat anticipe une petite baisse de la production, il renvoie les intérimaires, les CDD, il supprime des emplois, il aggrave les conditions de travail pour ceux qui restent. Le patronat maintient le même niveau de rentabilité et de profit malgré la crise parce qu'il se sert des travailleurs, de leur emploi et de leur salaire pour amortir leurs pertes. S'il y a moins de travail à faire, eh bien il faut forcer le patronat à répartir le travail entre les travailleurs, qu'il baisse les cadences, diminue les horaires, mais qu'il garde tous les travailleurs et qu'il garantisse les salaires. Qu'il arrête de faire travailler dur certaines lignes de montage, d'imposer des heures supplémentaires, alors que les ouvriers des autres ateliers sont mis au chômage. Qu'il partage le travail entre tous et maintienne les salaires à 100%. Et puis, il faut embaucher dans les services publics. Il suffit d'écouter le personnel hospitalier surchargé, les infirmières, les aides-soignantes incapables de prendre leurs jours de repos pour comprendre qu'il faut répartir le travail dans les hôpitaux en embauchant. Oui, il y a de quoi embaucher dans les écoles, à la poste, dans les transports. Et il faudrait même développer de nouveaux services publics. Parmi les domaines où la défaillance du secteur privé est manifeste et dramatique par les temps qui courent, il y a le domaine du logement. Chaque année, à la même période, on a le cœur déchiré de voir ces femmes et ces hommes à la rue, forcés de dormir dans leur voiture ou dans des taudis à peine chauffés. Et c'est d'autant plus révoltant que le problème ne date pas d'hier. Et c'est d'autant plus révoltant que la solution est tout à fait à la portée de l'État. Pourquoi ? Alors que l'État supporte par exemple l'essentiel des dépenses privées de l'industrie d'armement, il ne trouverait pas de quoi préempter les terrains et développer son propre service de construction en embauchant directement les maçons, les ingénieurs, les architectes. L'État pourrait le faire lui, directement, et sans en passer par les marchands de béton et autres spécialistes des fausses factures. Et voilà comment on pourrait construire le million de logements qui manque cruellement dans ce pays. L'intérêt des chômeurs et l'intérêt de toute la société se conjuguent pour imposer non pas moins de personnel dans les services publics, mais plus. Quant au salaire, il faut aussi imposer des augmentations de salaire, et des augmentations bien sûr des pensions de retraite, et obtenir leur indexation sur les prix, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. Ces dernières années, tous les prix ont augmenté. Depuis 2005, le gaz, à lui seul, a augmenté de 60%. Dernièrement, le gouvernement s'est réjoui parce que l'augmentation au 1er janvier du gaz ne serait que de 4,5%. Mais quel est le salaire, l'allocation ou la pension de retraite qui a augmenté de 4,5%? Et à cela, il faut rajouter l'augmentation des loyers, des charges, du carburant, des produits alimentaires. Et c'est sur la santé que le gouvernement a imposé les sacrifices les plus lourds. Les franchises médicales, les déremboursements des médicaments se multiplient à tel point que se soigner devient un problème, et un problème pour beaucoup. Il n'y a que Sarkozy pour dire que l'inflation n'est pas un problème. La plupart des patrons le disent eux-mêmes, et à commencer par les patrons de péages d'autoroutes, qui ont justifié le relèvement de leurs tarifs justement par l'inflation. Dans la réalité, tous les groupes capitalistes s'appliquent à eux-mêmes l'échelle mobile. Dès qu'ils subissent une hausse de leurs achats, ils la répercutent sur leurs prix. C'est facile pour eux, puisqu'ils fixent leurs prix. Ils peuvent les adapter comme ils veulent. Il n'y a que les travailleurs qui ne sont pas maîtres de leurs revenus. Ils ne décident ni de leur salaire, ni de leur pension de retraite. Alors, à chaque hausse de prix, il faut que les salaires, comme les retraites, comme le RSA, comme les allocations logement, familiales, comme l'allocation adulte handicapé, augmentent automatiquement. Pour ne pas se laisser appauvrir, quand tous les prix augmentent, il faut remettre d'actualité l'échelle mobile des salaires. Aujourd'hui, la bourgeoisie nous dit qu'elle n'a plus d'argent. Augmenter les salaires, ce n'est pas possible, que le pays a un problème de compétitivité. Les mêmes qui nous expliquent qu'ils ne peuvent plus cotiser pour la santé, pour la famille, pour les retraites, versent 300 fois le SMIC à leur PDG. Ils versent des millions aux grands actionnaires, millions qui sont dilapidés ensuite dans des caprices de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Eh bien, il faut que la lumière soit faite sur l'argent qu'il y a réellement dans ces grands groupes. Les travailleurs ont le droit de connaître ce que l'entreprise verse en salaire, ce qu'elle économise du fait des multiples exonérations de cotisations sociales, du fait des multiples niches fiscales. Les travailleurs ont le droit de savoir ce que l'entreprise verse en dividendes à ses actionnaires, ce qu'elle met en provision. Les patrons rabâchent que les travailleurs coûtent cher, mais combien leur rapporte un salarié? Toute la société a intérêt à ces contrôles, parce que les grosses entreprises ne se contentent pas d'exploiter leurs ouvriers, mais elles volent aussi les consommateurs. Elles volent aussi leurs fournisseurs ou leurs clients quand ils sont moins puissants. Il faut que l'on puisse connaître les conditions faites aux sous-traitants, les marges que les uns imposent aux autres, y compris les dessous de table. Plus qu'un droit au contrôle, il faudrait même parler de devoir civique. Parce que c'est la seule façon de dénoncer et d'empêcher les crimes patronaux. En levant le secret bancaire et commercial, on permettrait aux comptables, aux secrétaires, aux magasiniers, à tous les travailleurs de communiquer les informations qu'ils ont. Il y a bien des salariés, des techniciens, des comptables, des ingénieurs révoltés par les agissements de leur direction, parce qu'ils savent qu'ils sont contraires aux intérêts des travailleurs, de la population ou même de l'environnement. Ils sont souvent les premiers à tirer la sonnette d'alarme, simplement parce qu'ils sont aux premières loges et qu'ils voient ce qui se passe. Alors, il faut leur donner les moyens légaux de dire ce qu'ils voient sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. Il faut supprimer le secret des affaires. Cette mesure serait une revendication essentielle dans une lutte générale, parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs et des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour l'empêcher de nuire. Alors ce serait un premier pas pour contester le pouvoir de la bourgeoisie et un premier pas pour contester la dictature du grand capital. Nous ne doutons pas que la situation poussera tôt ou tard des millions de femmes et d'hommes dans la rue. Mais la colère et la détermination ne suffiront pas pour gagner. Il faut encore que les travailleurs sachent pour quels objectifs ils peuvent se battre, pour quelle politique. Populariser ce programme de lutte est la meilleure façon de préparer les luttes qui sont à venir. Et chose importante, dans ces luttes, nous pouvons compter sur nos frères, les travailleurs immigrés. Les politiciens de la bourgeoisie continuent de débattre entre ceux qui rejettent l'idée même d'accorder le droit de vote aux travailleurs immigrés et ceux qui sont pour le leur accorder, mais seulement pour les élections municipales. Eh bien, c'est honteux. Bien sûr que tous ceux qui vivent, travaillent et se font exploiter ici devraient avoir le droit de vote, et ça dans toutes les élections. Mais les réactionnaires, de droite et de gauche qui s'opposent à cette idée et qui s'opposent à la régularisation de tous les sans-papiers ne l'emporteront pas au paradis des urnes. Parce qu'en cas de grande lutte, tous les travailleurs se retrouveront côte à côte, français ou immigrés, avec ou sans papiers. Ils se retrouveront dans la même fraternité de la lutte collective, de la lutte des travailleurs de toutes origines et de toutes nationalités contre les capitalistes de toutes nationalités. Dans ces luttes, la jeunesse, qui a toujours été à la pointe de la contestation, aura un rôle majeur à jouer. Alors dans cette campagne, je voudrais m'adresser aux jeunes, à tous ces jeunes des quartiers populaires qui, après avoir été exclus de l'école trop tôt, sont baladés de petits boulots en longue période de chômage. Ils savent que la vie de leurs parents n'a pas été rose, mais avec la crise et le chômage, ils se disent que pour eux, ce sera encore pire. Je veux m'adresser aussi à tous les jeunes des quartiers populaires qui subissent les contrôles aux faciès et qui sont marginalisés et accusés à longueur de journée de tous les maux de la société. Aux jeunes diplômés aussi, qui rêvent peut-être d'une carrière à la Steve Jobs ou à la Bill Gates, mais que la réalité cloue aujourd'hui au comptoir d'un McDo ou à la caisse de supermarché. Eh bien, à tous ces jeunes, je dis qu'ils ont raison d'être révoltés. Qu'est-ce que c'est que cette société où une minorité peut gagner sur une bonne affaire en quelques mois ce que ne gagnera jamais aucun salarié toute sa vie durant? Qu'est-ce que c'est que cette société où on trouve des milliards pour les banquiers, pour les marchands d'armes, et où on nous dit qu'il n'y en a plus pour construire des logements, plus pour les écoles, plus pour les hôpitaux? Qu'est-ce que c'est que cette société où l'argent, les profits et le luxe comptent plus que la vie humaine? Alors oui, cette société fonctionne à l'envers et elle est condamnée à disparaître. Mais elle ne disparaîtra pas toute seule. Il faut des jeunes conscients du combat à mener. Il faut des jeunes, des femmes et des hommes qui ne s'arrêtent pas aux différences de religion, de sexe, d'origine, de couleur de peau, aux différences de métier, différences aussi, parce que les uns sont au chômage, alors que les autres ont un travail. Il faut des femmes et des hommes conscients de partager un sort commun et de faire partie d'une seule et même classe d'exploités. Alors à cette jeunesse, je dis, au lieu de l'individualisme de la société actuelle, au lieu du chacun pour soi, il y a la solidarité, la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Au repli communautaire, nationaliste, voire xénophobe, il faut opposer l'internationalisme, c'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les frontières sont des barrières artificielles que l'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. À tous ceux qui ne se résignent pas, nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités de classe et réorganisée sur des bases communistes. Sans même parler de la transformation de la société en profondeur, aucun grand progrès pour les travailleurs n'est venu des gouvernements. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leurs grèves, leurs manifestations. Il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Les victoires, ils les ont toutes remportées de hautes luttes. Quel que soit l'élu, il faut se préparer à de grandes luttes pour se défendre. Le chômage, les bas salaires, la perte de pouvoir d'achat ne sont pas une fatalité. On peut les combattre à condition que l'on impose au patronat l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous sans perte de salaire, et à condition que l'on s'en donne les moyens en allant jusqu'à contrôler par nous-mêmes les comptes des entreprises. Il y a déjà une pression implicite ou explicite sur l'électorat de gauche pour le vote utile, c'est-à-dire le vote en faveur de Hollande dès le premier tour. Que ceux qui sont convaincus par Hollande votent pour lui, c'est dans l'ordre des choses. Mais ceux qui ne lui font pas confiance et ceux qui ont encore en mémoire et dans le cœur les déceptions laissées par le Parti Socialiste chaque fois qu'il a gouverné n'ont aucune raison de voter pour lui au premier tour. Ceux qui ont compris que Hollande fera ce que le patronat exigera de lui et qu'il les laissera seuls face à leur patron n'ont aucune raison de voter Hollande au premier tour. Il faut que François Hollande sache que même si la haine vis-à-vis de Sarkozy lui a permis d'être élu au second tour, une fraction au moins de l'électorat ouvrier ne lui fait aucune confiance. Quant à Mélenchon, il attirera un certain nombre d'électeurs de l'électorat populaire, critiques justement vis-à-vis de Hollande. Mais Jean-Luc Mélenchon ne se présente pas sur la base d'un programme de lutte pour les travailleurs, tel que je viens de l'exposer. Et à bien plus forte raison, il ne se présente pas comme un candidat communiste, car même s'il est soutenu par le Parti communiste, il ne l'est pas lui-même. Il défend la perspective d'un gouvernement de gauche qui soit meilleur, plus préoccupé des classes populaires que les versions précédentes. Pour lui, la seule voie du changement, c'est changer de gouvernement. Et son modèle, en l'espèce, c'est le gouvernement Mitterrand. Autant dire que les voix qui se porteront sur son nom n'auront pas du tout la même signification que celles qui se porteront sur ma candidature. Je serai la seule à dire, je serai la seule à ne pas dire « Votez pour moi, je ferai ceci ou je ferai cela et tout ira mieux. » Voter pour ma candidature, ce sera exprimer la conviction que si les élections ne peuvent pas changer la vie, la lutte collective des exploités en a la force et la possibilité. Voter pour ma candidature, c'est exprimer son écœurement devant les alternances électorales, ou même quand cela change à la tête de l'État, rien ne change pour la majorité de la population. Mais c'est montrer que l'écœurement et la révolte viennent de travailleurs conscients qui se préparent à se battre contre les vrais responsables de la situation que sont les capitalistes de la finance et de l'industrie. C'est la façon la plus claire de montrer son opposition à l'extrême droite. Et voter pour ma candidature, c'est approuver les objectifs qu'il est nécessaire d'imposer au grand patronat et au gouvernement, quelle que soit l'étiquette de la future majorité. C'est contribuer à la popularisation de ces objectifs afin qu'ils deviennent ceux des luttes de demain. Voter pour ma candidature, c'est aider à démontrer que le courant communiste continue à exister et à proposer une politique face aux différentes variantes de la politique de la bourgeoisie. Alors, travailleuses, travailleurs, camarades, la campagne électorale qui commence n'est qu'un moment de la vie politique, qu'une des occasions pour faire ce que nous faisons en permanence dans notre classe sociale, défendre nos idées, défendre une politique communiste. Mais cette occasion, il faut la saisir, avec d'autant plus de détermination que la crise de l'économie capitaliste montre que cette organisation sociale est condamnée et qu'il faut la renverser. Ces idées semblent aujourd'hui minoritaires. Après des décennies de trahison ou de passage dans le camp des possédants des grands partis, qui dans un passé plus ou moins lointain ont incarné le socialisme puis le communisme. Mais c'est la situation elle-même, la crise du capitalisme, qui poussera vers la révolte une nouvelle génération d'exploités. Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes pour transmettre les idées communistes et l'expérience d'un siècle et demi de lutte de la classe ouvrière contre le capitalisme. Alors, tous ceux qui sont prêts à s'associer à nous, à cette activité pendant la campagne électorale, et qui sont prêts à nous aider, sont les bienvenus. Et puis, une fois l'élection terminée, les urnes rangées, eh bien il faut que le programme que nous avons défendu pendant la campagne continue de l'être après. Le Parti communiste n'existera que lorsqu'il sera rejoint par plusieurs dizaines de milliers de femmes et d'hommes, prêts à se consacrer à la transformation de la société. Il n'existera vraiment que lorsqu'il pourra être présent et actif dans tous les domaines de la vie sociale. Dans les entreprises, d'abord, parce que c'est là que se mène jour après jour cette lutte de classe et que c'est là que se décidera l'issue du combat entre les classes sociales. Mais il faut que le parti soit présent aussi partout ailleurs, dans les quartiers populaires, dans les écoles où se forme la jeunesse, dans tous les domaines qui touchent à la vie des travailleurs. Nous sommes encore loin de cette situation. Mais c'est cette présence de militants communistes qui peut aussi prendre le contre-pied de l'extrême droite et des forces réactionnaires de toutes sortes qui essayent de capter à leur profit le mécontentement et la colère que la crise du capitalisme ne manquera pas de susciter. Alors, camarades et amis, en nous aidant dans cette campagne électorale, vous participerez à notre combat commun, à la propagation de toutes ces idées et de ces objectifs qui seront décisifs en cas de remontée des luttes. Votez et faites voter pour ma candidature, et une fois l'élection terminée, continuons le combat.